Monsieur François Racine.
Bonjour, je suis présent.
Jean-Guy Lajeunesse.
Présent.
Yves Legault.
Présent.
Jean-Guy Blot.
Présent.
François Robillard.
Présent.
Frédéric Lantier.
Présent.
OK. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue exceptionnellement à huis clos via téléphone à 14h30 à la ville de Sainte-Marthe sur le lac, évidemment. Alors, avant de débuter, chères citoyennes, chers citoyens, Madame la conseillère, messieurs les conseillers, avant de débuter, j'invite les membres du conseil ainsi que les citoyens à se joindre à moi pour un moment de recueillement pour penser aux personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, ainsi qu'à leurs proches et à toutes les personnes qui se dévouent pour l'ensemble de la population. Je salue les commerçants de notre territoire qui, depuis hier, peuvent enfin accueillir leurs premiers clients depuis des mois. À la ville, nous sommes également en mode déconfinement en lien avec le plan présenté par le gouvernement du Québec. L'hôtel de ville et le garage municipal sont ouverts aux heures habituelles, tandis que la bibliothèque Laurent Savage et le centre communautaire demeurent toujours fermés au public. Bien que les consignes sanitaires soient en place afin d'assurer une réouverture sécuritaire, nous vous recommandons fortement de continuer à privilégier les communications à distance et le paiement en ligne. De plus, nous avons préparé les terrains de tennis situés au parc Maurice Binette et au parc municipal. Sur notre site web, les règles à respecter pour la pratique du tennis et du pickleball vous sont expliquées, sans oublier de vous conformer à celle de la distanciation sociale. Aussi, afin de vous permettre de profiter des grands espaces durant la période estivale, les parcs sont à nouveau accessibles pour la promenade. Les plateaux sportifs, modules de jeu, parcs de roulis roulants, skatepark et équipements d'entraînement demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Nous avons également annoncé hier les modalités concernant l'inscription au camp de jour pour la saison estivale qui aura lieu jeudi prochain. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mandaté l'entreprise L'Air en fête pour l'organisation du camp de jour. Cette entreprise spécialisée dans les activités de loisirs depuis plus de 20 ans sera en mesure d'offrir un camp respectant les exigences de la Direction de santé publique afin de prévenir la transmission de la COVID-19. Les parents pourront également profiter d'une tarification à la semaine du 29 juin au 21 août 2020, leur permettant de réserver le nombre de semaines correspondant à leurs besoins, incluant le service de garde. Plus de détails vous sont fournis sur le site web. Il faut se réjouir de cette bonne nouvelle car les enfants avaient besoin de se retrouver entre eux, de se divertir et de vivre de belles expériences. Enfin, je tiens à réitérer à l'ensemble des Martelacoises et des Martelacois l'importance de se conformer au règlement 646 concernant l'utilisation de l'eau potable, notamment le respect de l'horaire d'arrosage des pelouses. En effet, nous constatons une surconsommation de l'eau potable sur notre territoire, occasionnant des problèmes de pression et de coloration d'eau. Bien que cela n'affecte en rien la qualité de l'eau potable, la Ville vous demande de respecter la réglementation. Notez que les contrevenants au règlement s'exposent à une amende. J'aborde un dernier élément, à savoir la demande formulée par certains citoyens de faire l'acquisition de poules urbaines, comme on le voit dans d'autres municipalités québécoises. Les membres du conseil municipal se penchent actuellement sur la possibilité de modifier la réglementation pour permettre la garde de poules en milieu urbain et des informations vont vous être transmises lors de la séance du mois prochain. En terminant, la reprise de certaines activités contribuera à un retour à une vie un peu plus normale. Je remercie nos citoyennes et citoyens qui, depuis le début de cette pandémie, ont fait preuve d'un esprit de collaboration et de solidarité exemplaire. La bataille n'est pas encore gagnée et c'est pourquoi nous vous demandons de continuer à respecter les consignes pour protéger sa santé et celle des autres. Alors, merci de votre attention. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour au point numéro 1.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Qu'il propose. Qu'il appuie. Au point numéro 2, procès-verbaux, adoption.
Il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 avril 2020 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 1er et 20 mai 2020 tels que soumis.
Qu'il propose. Qu'il l'appuie. Au point numéro 3, liste des comptes à payer, adoption.
Il est résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 26 mai 2020, à savoir le registre des chèques émis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 132 848,54, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 369 006,10, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 2 191 969,18, depuis que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs.
Qu'il propose?
Il propose.
Qu'il appuie?
François Lefebvre l'appuie.
Alors, nous allons passer au point numéro 4, les avis de motion. 4.1, un avis de motion quant au règlement 674-3, modifiant le règlement 674 concernant la tarification des biens et services.
Yves Legault donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, je présenterai et vous ferai présenter le règlement 674-3. Modifiant le règlement 674, modifiant la tarification des biens et des services et dépose en ce sens le projet. Depuis, demande est faite de dispenser la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie.
Alors, en gros, les modifications sont, entre autres, on a enlevé toute la partie du camp de jour puisque c'est donné à l'externe et la tarification quant au mariage qui sont ajustés parce qu'annuellement, il y a une augmentation. Et puis, quant au projet intégré, nous n'avions rien dans aucune tarification de prévu quand les cols bleus allaient faire des travaux dans un projet intégré. Alors, nous allons passer à l'avis de motion 4.2, l'avis de motion quant au règlement 681 concernant les séances du conseil municipal.
Yves Legault donne l'avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, vous ferai présenter le règlement 681 concernant les séances du conseil municipal et dépose dans ce sens le projet. Depuis, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en avait une copie.
Alors, comme la réglementation en vigueur ici à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac date de 1980, il y a eu, et de même de 1976, alors il y a des modifications qui ont été apportées. Quant aux convocations, à savoir que la convocation pourra maintenant être via courriel. Il y a des modifications quant aux séances. le déroulement habituel. C'est à peu près... nous avons légiféré, on va légiférer aussi quant à la période de questions, qui était à l'époque d'une durée de 30 minutes, qui demeure de 30 minutes, mais c'est de la façon que ça va être, que ça se déroule. Alors, nous allons passer au point numéro 6.
Excusez-moi, Mme la mairesse, je vais demander le vote sur cette animation-là.
Sur un avis de motion, vous demandez le vote?
Oui, je demande le vote sur le dépôt du projet de règlement, oui. Je suis pour. Je trouve que ça n'a pas de sens, un projet de règlement comme ça, de un qui interdit à la population de filmer ou d'enregistrer pour les assemblées qui sont publiques. En plus, on réduit le nombre de questions par citoyen. On avait 3 questions avant, maintenant on est rendu à 2.
Alors, M. Robillard, je comprends que vous vous objectez au dépôt du projet de l'avis de motion. C'est un avis de motion.
Oui, c'est drôle parce que les procès-verbaux, c'est toujours marqué adopté à l'unanimité. Donc, le prochain procès-verbal, ça ne sera pas unanime. Ça va être à la majorité.
Bon, donc on prend en note que vous vous objectez à l'avis de motion.
Que je demande le vote sur le dépôt du projet de règlement.
OK. Bon, écoutez, si vous voulez qu'on passe...
Il ne peut pas avoir de vote. Madame la Présidente, il ne peut pas avoir vote sur une estimation. Il n'y a pas de vote. C'est le procès.
Mais non, c'est parce que c'est...
Là, il peut s'objecter. Mais pour le moment, c'est à l'étude. C'est à l'étude jusqu'au mois prochain, puis le mois prochain en présence. Premièrement, dans le projet de règlement, c'est marqué que l'entente du conseil se penchait, là. C'est la majorité du conseil, parce que en aucun temps, on est venu consulter quant à...
Okay. Alors, M. Robillard, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose à l'avis de motion le projet de règlement. Vous pouvez nous revenir avec vos commentaires. Et tout conseiller peut faire la même chose, peut arriver avec des commentaires. Et là, vous savez très bien que le projet de règlement peut être modifié avant son adoption. Alors, je crois que...
Depuis le début, là, depuis 2017, il n'y a pas grand-chose qui a été modifié sur le panier tampon, là,
je ne suis pas tout à fait certaine là, de ce que vous dites. Là. Il faudrait les vérifier. Hein. Mais, M. Robillard, s'il vous plaît, qu'on passe au vote sur un avis de motion. Moi, je n'ai pas de problème à satisfaire vos besoins d'avoir un vote sur un avis de motion. Alors, qui vote pour? M. Racine?
Pour.
Jean-Guy Lajeunesse?
Pour.
Yves Legault? Jean-Guy Blot.
Pour.
Frédéric Lantier.
Pour.
Et alors, M. Robillard, vous votez?
Contre.
Alors, vous votez contre un avis de motion, M. Robillard. Bravo. Alors, nous allons passer au point numéro 6. L'urbanisme. 6.1. Inspecteur régional adjoint, responsable de l'application du règlement RCI 2005-01 quant au contrôle intérimaire. Nomination.
Considérant qu'en vertu de la résolution 2014-02-40, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a nommé le directeur du service de l'urbanisme à titre de responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes. En conséquence, il est résolu de nommer le directeur du service de l'urbanisme ou, en son absence, l'inspecteur en bâtiment de ce service à titre de responsable de l'application du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes.
Alors, qu'il propose?
Je le propose.
Qui l'appuie?
Je l'appuie.
6.2, demande de dérogation mineure, propriété 6 au 30-60 rue du Sauvignon. 6.2, demande de dérogation mineure.
Je t'explique, c'est quoi la dérogation?
Alors, il s'agit ici... d'une demande de dérogation mineure pour une véranda 3 saisons de 20 mètres carrés sur fondation à l'abri du gel avec une marge arrière de 5,5 mètres au lieu de 8 mètres. Alors,
considérant qu'en date du 5 mai 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre une véranda trois saisons non isolée, non chauffée, de 20 mètres carrés sur fondation, à l'abri du gel avec une marge arrière de 5,5 mètres au lieu de 8 mètres. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-05-48, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la délivrance d'un permis de rénovation pour le 3060 rue du Sauvignon, considérant que le règlement de zonage actuellement en vigueur contient deux normes différentes, mais que la norme la plus sévère s'applique. Considérant que le terrain derrière le 3060 rue du Sauvignon n'est pas constructible, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3060 rue du Sauvignon.
Qu'il propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lampier, je l'appuie.
6.3, demande de PIA quant à la propriété sise au 257 rue de la Tourbière.
Considérant qu'en date du 5 mai 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 10 pieds par 16 pieds à l'arrière sur pieux vissés. Considérant que le revêtement extérieur ainsi que le revêtement de toiture sont semblables à ce qui est existant, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-05-47, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 257 rue de la Tourbière, considérant que la demande de PIA est conforme aux règlements municipaux, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, considérant la recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro CCU 2020-05-47. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 257 rue de la Tourbière telle que déposée.
Qui propose?
Frédéric Lampier, je propose.
Qui l'appuie?
Je
l'appuie. 6.4, demande de PIA quant à la propriété sise au 2998 rue Louise.
Considérant qu'en date du 5 mai 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 12 pieds par 16 pieds sur fondation de béton coulé en cour latérale, considérant que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal au 2998 rue Louise, considérant que le bâtiment possède des droits acquis, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, considérant la recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro CCU 2020-05-51. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la propriété sise au 2998 rue Louise telle que déposée.
Qui propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lampé de l'appui.
Alors, nous allons passer au point numéro 7, l'administration. 7.1, encadrement des secteurs protégés des zones inondables.
Considérant que le lac Vidéomontagne a connu des épisodes de crues printanières majeurs en 2017 et en 2019 et que ces événements ont eu un impact majeur dans les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes, considérant que le gouvernement du Québec a décrété en juillet 2019 une zone d'intervention spéciale, la ZIS, regroupant les zones de grand courant définies par la politique de protection des rives du littoral et de la pleine inondable, le PPRLPI, et les secteurs inondés en 2017 ou en 2019, considérant que le gouvernement du Québec a étendu par décret à l'ensemble de la ZIS l'encadrement normatif en vigueur pour les zones de grand courant, considérant que le gouvernement du Québec a agrandi la zone d'intervention spéciale par décret en décembre 2019 en y ajoutant les parties des territoires des municipalités de Pointe-Calumet et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac incluses dans la zone des plus hautes eaux connues lors de la crue de mai 2017, telle que délimitée dans le règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal Considérant que le gouvernement du Québec a décrété des règles particulières pour les territoires des municipalités de Pointe-Calumet, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes, considérant que ces règles particulières ne permettent pas d'assurer une gestion des plaines inondables cohérente et uniforme à l'ensemble des secteurs inondables de la MRC, protégés par des ouvrages de protection, créant des incompréhensions sur le risque potentiel associé à ces secteurs et complexifiant l'application réglementaire, considérant que depuis la création de la ZIS, de nombreux impacts négatifs ont été recensés sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes, par exemple, le stress pour les propriétaires actuels, l'impossibilité de conclure une transaction immobilière, les restrictions à l'amélioration du cadre bâti, les difficultés relatives à la planification des mesures de résilience et de protection. Considérant que la ZIS et le cadre normatif qui l'accompagne seraient des mesures temporaires, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a mis à jour les cartes de zones inondables pour les cours d'eau métropolitains dans le cadre d'un mandat qui lui a été confié par le gouvernement du Québec et que ces cartes représentent une amélioration significative de la caractérisation des zones inondables, notamment par l'ajout de la plus haute eau connue et de la profondeur de submersion. Considérant que dans sa cartographie, la communauté métropolitaine de Montréal a appliqué le principe reconnu mondialement de transparence hydraulique des ouvrages de protection pour tenir compte du risque résiduel persistant derrière de telles infrastructures, considérant que la PPRLPI ne fait actuellement aucune distinction entre les plaines inondables protégées ou non protégées par des mesures de protection, considérant que si un risque résiduel existe derrière les ouvrages de protection, le niveau de ce risque n'est pas équivalent à celui existant dans des secteurs non protégés, considérant que plusieurs municipalités de la MRC de Deux-Montagnes ont une partie importante de leur territoire qui fait l'objet d'une protection en raison de l'érection de diverses infrastructures dédiées à ces effets, considérant qu'ailleurs dans le monde, plusieurs régimes réglementaires encadrent de manière particulière les secteurs inondables protégés par des ouvrages de protection. En conséquence, il est résolu que le gouvernement du Québec statue dans les plus brefs délais par le biais d'un décret ou d'un arrêté ministériel sur l'encadrement de l'aménagement dans les secteurs protégés par des ouvrages de protection, que l'encadrement de l'aménagement des secteurs protégés par des ouvrages de protection permette et favorise la réalisation d'aménagements résilients et adaptés aux inondations dans un contexte de changement climatique, que la communauté métropolitaine de Montréal appuie la MRC de Deux-Montagnes dans sa demande, que le gouvernement du Québec prenne connaissance de la proposition d'encadrement normatif de l'aménagement dans les secteurs protégés jointe à la présente résolution, que la présente résolution soit transmise à la CMM, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Qu'il propose?
Jean-Yves, je le propose.
Qu'il l'appuie?
Jean-Yves, la venette, l'appuie.
7.2, ajustement des plans et avis techniques, autorisation de dépassement de coûts, CIMAT plus.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a octroyé le contrat pour la préparation des devis et la surveillance des chantiers pour les travaux d'imperméabilisation, de prolongement et de réfection de la digue à l'entreprise CIMAT plus par sa résolution 2019-07-142. Considérant que des ajustements de conception, d'avis techniques et de mise en plan sont nécessaires dans le cadre de ce mandat et qu'ils découlent du contrat octroyé. Considérant que conformément au règlement 677 concernant la gestion contractuelle, tout dépassement de coûts supérieur à 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement à l'entreprise CIMA Plus d'un montant de 47 160 $ plus toute taxe applicable pour les ajustements de conception, avis techniques et mise en plan nécessaires au contrat.
Qu'il propose?
Et je vous propose.
Qu'il l'appuie?
Comment je peux l'appuyer?
Alors, nous allons passer aux ressources humaines. Point 8.1, directeur du service de l'urbanisme, nomination.
Considérant la vacance du poste de directeur du service de l'urbanisme, considérant les compétences de Mme Amélie Tremblay, considérant les recommandations du directeur général et de la responsable des ressources humaines, en conséquence, il est résolu de procéder à la nomination de Mme Amélie Tremblay au poste de directrice du service de l'urbanisme à compter du 26 mai 2020, d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac toute entente à intervenir entre les parties ainsi que tout document pour donner plein effet à la présente résolution.
Qu'il propose? Qu'il appuie? Qu'il appuie?
Frédéric Lanté de l'appui.
8.2, octroi de permanence, Joey Ulloa-Bordelot.
considérant la nomination d'une directrice au service de l'urbanisme, considérant la vacance d'un poste d'inspecteur des bâtiments, considérant qu'en date du 26 mars 2019, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche temporaire de M. Joey Hulot-Bordelot à titre d'inspecteur des bâtiments, considérant les recommandations du directeur général et de la responsable des ressources humaines, considérant les dispositions de la convention collective des cols blancs de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en conséquence, il est résolu d'accorder la permanence d'emploi à M. Joey Hulot-Bordelot à titre d'inspecteur des bâtiments, et ce, en date du 26 mai 2020, le tout conformément à la convention collective de travail du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804.
Qui le propose? Qui l'appuie?
Frédéric Lancé de l'appui.
Nous allons passer au point numéro 10.1, municipalité amie des aînés, comité de suivi.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté la résolution 2020-04-080 lors de la séance du conseil municipal du 28 avril 2020, considérant que des précisions sont nécessaires concernant la conclusion de cette résolution, en conséquence, il est résolu que la décision de cette résolution soit remplacée par ce qui suit, que le conseil municipal mandate le comité de suivi MADA, dont les membres restent sensiblement les mêmes que celui du comité de pilotage, pour s'occuper du suivi et de l'évaluation du plan d'action à court, moyen et long terme. Monsieur Jean Guiblot, conseiller municipal responsable des questions aînées et représentant du carrefour d'aide Martelacqua et de la Popote Roulante. Monsieur Jean-Guy Lajeunesse, conseiller municipal responsable des questions aînées. L'agent de liaison en milieu municipal, personne à déterminer, le CI3S des Laurentides, direction de la santé publique. Madame Nicole Mercier, citoyenne et présidente du Cercle des fermières. Madame Vicky Pépin, directrice du service des loisirs, des arts et de la vie communautaire. Monsieur Gabriel Tran, citoyen. Madame Hélène Martineau, travailleuse de milieu auprès des aînés, Carrefour, d'Action bénévole, des artisans de l'aide. Madame Alexandra Brunet, agente socio-communautaire, régie de police du lac des Deux-Montagnes.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Pour le faire, l'appuie.
10.2, intégration des personnes handicapées, bilan 2019 et plan d'action 2020.
Considérant qu'en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle et sociale, scolaire, professionnelle et sociale, une municipalité comptant plus de 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur relevant de ses attributions. Considérant que le plan d'action doit décrire les mesures prises au cours de l'année 2019 et les mesures envisagées pour l'année 2020, considérant que le comité responsable du plan d'action, composé d'élus, de membres du personnel, de citoyens en situation de handicap et d'un organisme du milieu, ont discuté afin d'évaluer les résultats de 2019 et d'établir les objectifs 2020, considérant que le bilan et plan d'action doivent être rendus publics, considérant le but ultime soit de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. En conséquence, il est résolu d'adopter le bilan 2019 et le plan d'action 2020 tel que recommandé par le comité pour le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, lequel sera ensuite déposé à l'Office des personnes handicapées.
Qui le propose?
Jean-Guy Blou le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Alors, nous allons passer aux travaux publics. Point numéro 13, 13.1, appel d'offres CHI Union 2021-2022, hypochlorite de sodium.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 7 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, à savoir l'hypochlorite de sodium, le PAS-10, le PAX-XL6, le PAX-XL8, la chaux calcidique hydratée, le charbon activé et le silicate de sodium N. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une ville de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2021 et 2022. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long. que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2020-2022 mise en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat d'hypochlorite de sodium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans selon les temps prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à respecter les termes de son contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6% pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5% pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.
Qu'il propose?
Il le propose.
Qu'il l'appuie?
Jean-Guy Lebel appuie.
13.2, marquage de la chaussée. INV 2020-005, octroi de contrat.
Considérant l'appel d'offres sur invitation, INV 2020-005, auprès de 5 entreprises, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 19 mai 2020, qui se lit comme suit. Entreprise MRQ, montant de la soumission avant taxe, 77 644,87. L'entreprise Techline Inc., montant de la soumission avant taxe, 194 065. Et les entreprises Signalisation RC Inc. n'a pas soumissionné. L'entreprise TRA Inc. n'a pas soumissionné. Et l'entreprise Marquage Lignax n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Carl Scanlan, directeur général, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise MRQ, et ce, conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat INV-2020-005 relatif au marquage de la chaussée pour l'année 2020 à l'entreprise MRQ au montant de 77 644,87 plus toute taxe applicable.
Qu'il propose? Qu'il appuie? 13.3, fauchage, INV 2020-006, octroi de contrat.
Considérant l'appel d'offres sur invitation, INV 2020-006 auprès de 3 entreprises. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui a eu lieu le 19 mai 2020, qui se lit comme suit. Entreprise Liling Paysagement, montant de la soumission avant taxe, 31 439,38. Entreprise Dominique Allary, montant de la soumission avant taxe, 35 024,57. Desjardins Excavation n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Carl Scanlan, directeur général, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Liling Paysagement et ce, conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat INV-2020-006 relatif au fauchage pour l'année 2020 à l'entreprise Liling Paysagement au montant de 31 439,38 plus toute taxe applicable.
Qu'il propose?
François Lefebvre le propose.
Qui l'appuie?
L'Angleau l'appuie.
13.4, coupe de pelouse, INV 2020-007, octroi de contrat.
Considérant l'appel d'offres sur invitation INV-2020-007 auprès de 3 entreprises, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont eu lieu le 19 mai 2020 et qui se lit comme suit, entreprise Liling Paysagement, montant de la soumission avant taxe 60 559,70. L'entreprise Embellissement Rolivar Inc. n'a pas soumissionné et l'entreprise Entretien Paysager Thibault n'a pas soumissionné. Considérant la recommandation de M. Carl Scanlan, directeur général, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise l'entreprise Leeling Paysagement et ce, conformément au règlement concernant la gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat INV 2020-007 relatif à la coupe de pelouse pour l'année 2020 à l'entreprise Leeling Paysagement pour un montant de 60 559,70 plus toute taxe applicable.
Qu'il propose?
Jean-Gabriel le propose.
Qu'il appuie? Services techniques, dans les services techniques au point 14. 14.1, imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en remblai. SP 2019-017, dépassement de coûts, autorisation.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac attribue le contrat SP-2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Duroquin Construction par sa résolution 2019-08-177, considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 25 000 $ doit être approuvé par résolution du conseil municipal, en conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement de 541 744,39 plus toute taxe applicable à l'entreprise Duroquin Construction pour les dépassements de coûts quant au contrat SP-2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue en remblai.
Qu'il propose?
Qu'il le propose.
Qu'il appuie?
Pardon, je peux l'appuyer.
Alors, il s'agit d'excavation de canal dans la Frayère. Il s'agit de documents qui ont été faits pour les descentes de bateaux, pour les pluviaux de la digue et pour les rues, parce qu'il faut brancher vers les rues pour le pluvial. Et évidemment, il reste aussi la plage, le fossé qui a été fait. Alors, nous allons passer au point numéro 15, les dépôts.
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois d'avril 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois d'avril 2020. Dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement 677 concernant la gestion contractuelle.
Alors, nous allons passer au point numéro 16, la période de questions. Alors, nous avons une question de M. Patrick Laniel, 212 33e Avenue.
Donc, question. Nous, les résidents de la zone H710, à savoir 32e et 33e Avenue et la rue Lorrain, aimerions que la ville revoie le zonage pour restreindre la multifamiliale au terrain de l'ancien garage Miron et le long du chemin d'Oka.
Alors, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et pour le moment, la réponse, c'est qu'il n'est pas possible de procéder au changement du zonage. Par contre, M. Laniel nous a envoyé un courriel, alors nous allons le contacter dans les prochains jours pour le rencontrer. Alors, nous allons passer à la question de M. Alain Maignan, 291 rue de la Tourbière.
Monsieur Maignan voudrait savoir ce qui explique la surconsommation d'eau de la semaine dernière. Il veut savoir si la production était optimale. Il demande si le confinement et le dégel tardif du sol ont fait en sorte de créer cette situation, étant donné que plusieurs ont installé de la nouvelle pelouse et rempli leur piscine en même temps. Et finalement, il veut savoir combien de temps la surconsommation a duré.
OK. Alors, à tous les ans au printemps, les deux ou trois premières fins de semaine où il fait beau, on observe une surconsommation de l'utilisation de l'eau. Évidemment, cette année, avec la COVID et les gens qui sont à la maison, il y a eu une consommation qui était beaucoup plus élevée, même comparativement aux années auparavant, les premières fins de semaine où il a fait beau. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu une surconsommation. Mais il faut aussi dire que les gens ne respectent pas la réglementation et les horaires d'arrosage. Et le problème est constaté, c'est surtout les fins de semaine et en soirée. Mais maintenant, ça semble être sous contrôle. Il faut dire que les gens remplissent leur piscine et les gens ne font pas attention au côté pair et côté impair alors qu'on a une réglementation en vigueur.
Monsieur Maignan demande s'il est prévu d'installer des panneaux sur le boulevard des Promenades en direction de Deux-Montagnes pour bien indiquer les voies de circulation entre le chemin d'Oka et le boulevard des Pins.
Oui, actuellement, il y a une analyse qui est faite pour la possibilité là, de renforcer et le marquage au sol et de la signalisation de configuration des voies dans les deux directions. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a adopté la résolution quant au marquage. Alors, le marquage va être fait dès la semaine prochaine. Alors, M. Pierre-Luc Ducharme, 71 19e Avenue.
Monsieur Ducharme aimerait savoir si la Ville a déterminé des endroits pour aménager de nouveaux parcs sur des terrains acquis suite aux inondations.
Nous n'avons absolument pas rien de déterminé et de ce qui sera fait avec les terrains qu'on a acquis suite aux inondations. Question suivante, elle est formulée par M. Alain Dominique, 9 19e Avenue.
Monsieur Dominique a appris de la part des contremaîtres œuvrant sur le chantier de la digue que les accès au littoral ne seraient plus présents après la fin des travaux. Si la rampe au bout de la 18e avenue est supprimée, quel genre d'accès aurons-nous entre la 17e et la 20e avenue?
Alors, en premier lieu, les entrepreneurs et contremaîtres de chantier ne sont pas au courant de toutes les étapes. Ils suivent les plans et devis des travaux qu'ils ont à exécuter. Alors, on vous demanderait, M. Dominique, de vous adresser à la Ville pour des questions et non pas aux employés sur le chantier. Oui, il va y avoir des aménagements de fait, mais nous ne sommes vraiment pas rendus à cette étape. Nous devons d'abord terminer complètement les travaux de la digue. Par la suite, un projet de revitalisation nous sera soumis par un biologiste et devra être approuvé par les instances gouvernementales, soit Pêche et Océan et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
Monsieur Dominique nous mentionne que plusieurs enfants vont s'amuser dans le péri sur le versant amont de la nouvelle digue. Il demande si la Ville est au courant de cette situation et ce que la Ville va faire.
Bon, il y avait de l'enrochement sur le bord du lac au parc de la Fraternité et les enfants, avant le rehaussement, les enfants allaient pour jouer et allaient même pêcher. Puis il n'y a jamais eu d'incident. On a tous joué quand nous étions jeunes à des endroits semblables. Oui, on s'est égratigné les genoux quelques fois et on continuait quand même à jouer. Alors, laissons jouer les enfants pendant ce temps-là. Ils ne sont pas sur leurs appareils électroniques. Et pour le danger, nous sommes confiants que les parents pourront intervenir auprès de leurs enfants si tel est le cas.
Monsieur Dominique demande où nous en sommes avec la possibilité d'une entente afin que les citoyens puissent avoir accès à une rampe de mise à l'eau.
Alors, nous sommes toujours en pourparlers avec plusieurs personnes dans ce dossier et on espère pouvoir trouver un endroit pour nos citoyens sous peu. Mais malheureusement, pour le moment, les endroits ne peuvent offrir de stationnement.
Monsieur Dominique demande si le plan des mesures d'urgence et des plans d'évacuation de chacun des quartiers avec points de ralliement seront publiés et sur quelle plateforme?
Alors, comme on a déjà dit à Monsieur Dominique, nous ne pouvons pas publier le plan des mesures d'urgence puisque celui-ci contient des renseignements nominatifs et confidentiels. Nos représentants en sécurité civile, soit nos policiers et pompiers, sont bien outillés pour intervenir dans toutes les situations. Et sur notre site Internet, vous pouvez trouver de la documentation pour prévenir et réagir en cas de sinistre, ainsi que plusieurs coordonnées utiles.
Monsieur Dominique demande ce que la Ville compte faire avec les terrains vacants qui risquent de manquer d'entretien cet été et il aimerait savoir ce que la Ville compte faire avec les propriétés qu'elle a récupérées.
Alors, nous allons entretenir les terrains dont nous sommes responsables et pour les autres, la réglementation sera appliquée. Et si ce n'est pas le gazon ou le fauchage n'est pas fait, bien, ces gens-là vont recevoir des avis du service d'urbanisme. Et aucune décision n'a encore été prise concernant les propriétés que nous avons acquises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, j'ai d'autres questions, Mme la mairesse François Robillard.
Alors, M. Robillard, moi, je voudrais juste vous indiquer qu'un avis de motion s'est donné par un membre du conseil pour informer les élus qu'ils auront à se prononcer sur un règlement. Il vise également à informer les citoyens que le conseil sera saisi d'un projet de règlement qui les concerne. Alors, vous comprendrez qu'un avis de motion n'est pas soumis au vote des membres du conseil. Alors, voyez-vous la nécessité d'avoir un règlement pour justement quant au concernant les séances du conseil? Parce que voyez-vous, après, juste un instant, M. Robillard, juste un instant, vous allez me laisser finir. Après presque 15 ans à titre de conseiller municipal, vous n'avez pas encore compris ce qu'était un avis de motion. Alors, je vais passer à la période de questions pour vous, M. Robillard.
Ah, merci, Stéphane. C'est un petit peu de projet de règlement, puis c'est drôle parce qu'il va falloir expliquer pourquoi, dans chacun des procès verbaux, l'avis de motion de marqué accepté à l'unanimité.
Alors, nous allons regarder ça.
Madame la mairesse, moi, je n'ai pas compris. Il y a d'autres membres aussi qui n'ont pas compris ça.
C'est beau. Alors, nous allons faire les vérifications. À savoir pourquoi
J'ai reçu deux plaintes concernant la vitesse sur le boulevard Lorette-Péoret. J'en ai fait mention à M. Cadman entre la rue Le Chemin d'Oka et la de Lorrain. Il n'y a aucun stop, il n'y a aucun rétrécissement de voie. Il y a beaucoup de gens qui roulent plus que 40 km/h. J'aimerais ça qu'on porte une attention particulière à cette place-là. Et la deuxième plainte que j'ai eue, c'est sur la rue Annie. Il y a une courbe là, au niveau de la rue Annie. Là, et les gens rentrent dans la courbe à une vitesse plus grande que la vitesse permise. J'aimerais ça si on peut mettre une attention particulière aussi sur cette.
OK. On va demander à la police de faire une plainte cible avec ces deux dossiers-là. Nous allons aussi le transférer au comité.
Moi, là, j'ai dit qu'on a passé une résolution là, pour appeler le gouvernement à bouger plus rapidement tant qu'à un nouveau cadre là, qui va remplacer l'asile. J'ai bien compris.
Oui, c'est surtout pour que le gouvernement se positionne quant aux digues. Oui.
OK, parce que concernant les dérogations mineures pour les résidents qui demeurent dans la ville, donc pratiquement l'ensemble des citoyens j'ai de la misère à comprendre pourquoi pendant un an on a accordé 14 dérogations mineures et puis tout bonnement, là, un mois et demi, après, puis je connais au moins trois personnes qui ont des démarches qui avaient été entamées avec l'urbaniste. L'urbaniste les a encouragés à aller chercher des certificats d'arpenteurs, des plans, pour arriver ensuite à leur dérogation mineure. Et vous-même, vous avez encouragé les gens simplement à aller chercher des dérogations mineures puisqu'ils allaient être gratuites pour ces gens-là. Comment ça, après un an, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qu'on n'a plus le droit de faire des dérogations mineures pour les gens de la ville. Est-ce que le budget a changé ou c'est parce que, tout simplement, il n'y a personne qui s'est renseigné sur le cadre de la ville au niveau de l'urbanisme?
OK. Alors, vous savez qu'on a changé de personnel au sein du département d'urbanisme. Et la personne qui allait maintenant à la MRC, c'est Mme Amélie Tremblay, qu'on vient de nommer directrice du service. Elle allait aux rencontres à la MRC. Et c'est à la MRC qu'on a levé le flag, puis qu'on a dit que c'était impossible de donner une dérogation mineure. Alors, des vérifications ont été faites auprès du ministère des Affaires municipales et effectivement, nous ne pouvions émettre de dérogation mineure dans cette zone-là. Alors, c'est... Oui, M. Robillard, il s'agit d'une erreur interne du service d'urbanisme. Et nous l'étions aussi quand nous l'avons appris.
Ouais. Prochaine question. On a trouvé une résolution pour dépassement de coûts
en dépassement de coûts. La dernière fois, on parlait d'à peu près 2 millions. Là. Est-ce que le 500 000 s'ajoute aux 2 millions?
Oui.
On est rendu à 2,5 millions.
Oui, on devrait probablement se rendre à 3 millions.
OK. Et là, vous voulez, en répondant à une des questions de M. Dominique, là, vous avez dit que pour tous les aménagements qu'on avait avant, il va y avoir...
Oui, il va falloir s'entendre avec le gouvernement.
OK. Ça veut dire que les coûts liés à ça ne sont pas dans le règlement d'emprunt de 49,4 millions, là?
Non, ils ne sont pas dedans.
OK. Ça veut dire que...
L'aménagement pour les pour descendre à l'eau.
Toute la papiologie, c'est tout.
Bon, OK. Ben, pour les aménagements du bord de l'eau, je veux dire, au bout de la 6e avenue, il était possible de descendre une chaloupe pour un canot, un kayak sur le bord de l'eau.
Oui, ça c'est compris. Ça c'est compris. Ils vont pouvoir le faire. Oui.
OK. Fait que, comme pareillement, au bout de la 9e, au bout de la 14e.
Oui.
Et entre la. Ben aussi au niveau
là
de la.
Là où il y a le parc.
Là, il y avait un accès, puis je sais, souvent, ben, il y a une immense plage, puis un immense espace qui est pas immergé. Ça aussi, ça va être accepté. Ou ça va être dans un projet futur.
C'est dans. Il faudrait me donner le. Redonnez-moi l'adresse, là, ou le lieu, là. Le dernier que vous avez nommé, là.
Ça doit être. Me semble que c'est la vue du parc, là. Qui est. Je pense entre la 19 et la 18, je me trompe pas, là.
C'est mémoire, là. OK. Ça, je crois que c'est dedans, mais je ne suis pas certaine, là. Il faudrait qu'on vérifie, M. Robillard. On va vous revenir, là. Ce qui est vraiment dedans ou pas.
Parce que je pense que c'est important de garder les acquis qu'on avait, puis si on est capable d'en avoir d'autres, tant mieux.
OK, mais c'est parce qu'il faut absolument que ce soit approuvé, OK, par les instances gouvernementales, soit la Pêche et Océan, puis le ministère de l'Environnement.
Oui, mais parce que ce qui est important, c'est que les acquis qu'on avait avant, ben je pense que ça serait important qu'ils soient toujours là, sans nécessairement passer par un autre processus. Oh, je peux comprendre pour un nouvel aménagement, mais des aménagements qu'on a déjà, ben je pense qu'il va falloir travailler fort pour que ça soit à même là, la nouvelle digue.
Oui, je suis d'accord avec vous.
On doit avoir encore un autre processus. Parce que si c'est ça, ben ces aménagements-là, on ne les aura pas avant 2 ou 3 ans.
Non, ça devrait se faire cet été, non? D'après ce qu'on nous dit. Il y a une partie qui va être faite cet été, c'est certain, là, puis peut-être, tout dépendant là, de le ministère de l'Environnement et Pêche et Océan, là, à quelle vitesse ils vont nous répondre, parce que là, on ne sera plus en urgence. Là. Alors, les délais vont être les délais normaux. Alors, on espère que ça va bien aller comme ça a été depuis le début. Là.
Terrain au coin de Boulevard des Pins, Lorrain, puis de l'Orabière de la Seine, qui est un peu sur le Boulevard des Pins, là, où est-ce qu'on va tout porter la roche de la digue. Là, j'ai des citoyens là, qui en ont, mais vraiment, ras-le-bol.
OK. Alors, vous avez formulé une demande au directeur général.
Je veux juste être clair que l'année passée, là, ces citoyens-là ont très bien compris l'urgence de la situation. OK? Ils ont vécu avec une problématique. Mais cette année, ça recommence de nouveau. Il y a des camions, des va-et-vient. On donne ça. Puis je tiens à rappeler que c'est un terrain qui est zoné par. Je ne pense pas qu'il doit être zoné garage municipal ou zoné donc. Puis là, je comprends très bien là, les citoyens qui ont de la misère à aller en arrière chez eux parce qu'il y a de la pluie. Puis vous savez, ça fait quand même un petit bout qu'il n'y a pas plu. Fait qu'avec de la roche et de la poussière des camions, il n'y a rien d'intéressant d'être dans sa cour là, présentement en arrière.
OK. Alors, moi, je peux vous dire que les gens qui s'occupent de la digue sont allés rencontrer les citoyens. OK. Les deux citoyens qui sont les plaignants. Apparemment, ils auraient maintenant nivelé le terrain et c'est pas, et tout aurait été nettoyé et il n'y aura pas d'activité avant la fin du mois de juin, là, je pense. Donc, il n'y aura pas d'activité du tout. Alors, et les citoyens qui sont concernés vont être vont de nouveau être rappelés s'il y a du mouvement qui va se faire à cet endroit-là. OK? Parce qu'on a deux plaignants, là, oui. On est conscient de la problématique.
C'est important, là. Je veux dire, on demande aux citoyens de respecter la réglementation, de respecter le zonage en vigueur. Puis je pense pas que le terrain, même s'il appartient à la ville, je pense pas que le zonage est fait pour aller domper de la roche puis domper des matériaux, là. Fait que
Oui, je viens de vous dire qu'on l'a pris au sérieux, on a rencontré les citoyens. Alors, on va faire le suivi de ce dossier-là. Et honnêtement, là, on l'aurait mis où? Avez-vous des suggestions à nous donner?
Il faudrait voir les terrains disponibles.
Ben, c'est justement, il y en avait là, M. Robillard. Mais on est conscient de la problématique. Comme je vous ai dit, on a rencontré les citoyens.
Mais d'accord, mais parce que il y a un mois, on a fait des démarches et on nous avait dit que c'était terminé. Et finalement, là, quelques jours, ça a recommencé. Puis il n'y a personne à la ville qui est au courant qu'on allait retomber du stock-là. Fait que le suivi, le problème, pas serré le suivi, là.
Oui, je viens de vous dire que les gens ont été rencontrés et qu'ils vont être rencontrés à nouveau s'il y a de l'activité sur le terrain.
OK. Concernant les incendies, je vous ai transmis un courriel juste avant la table de me dire que, le courriel en disant que la rencontre du mois de mars avait été reportée, là, mais qu'est-ce qui y avez-vous des développements à parler à la population concernant les incendies? Là? Qu'est-ce qui s'en vient?
Mais ce qui s'en vient, moi, je peux vous dire que la ville de Deux-Montagnes a décidé de, contrairement à vos affirmations là sur les réseaux sociaux, là, alors non, il n'y aura pas de permanence d'ici au mois de septembre là, du tout. La permanence va être remodifiée et retravaillée pour 2021 seulement si on se dirige vers ça. Alors, pour
2000,
que Deux-Montagnes aurait passé une résolution, je ne le sais pas, M. Robillard. Moi, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ici.
Ben, vous auriez peut-être vous informer parce qu'ils ont passé une résolution en janvier.
Mais oui, M. Robillard, je vous dis qu'il y a eu des pourparlers et le directeur de la ville d'à côté a appelé notre directeur pour lui dire qu'il n'y aurait pas de permanence en 2020. Alors, vous voulez quoi de plus? Un chose comme ça?
C'est une réponse comme celle-là que je m'attendais, mais encore là, c'est qu'on est obligé de poser la question pour que vous parliez de
M. Robillard, si vous aviez regardé le budget qu'on a adopté, nous n'avons en aucun cas accepté l'augmentation relative au temps plein à Deux-Montagnes. Alors, l'incidence sur le compte de taxes de nos citoyens, nous, on l'avait refusé. OK?
Concernant le changement pour les districts électoraux, ça veut dire que si on n'a pas eu de résolution à cette séance-ci, vous allez faire une spéciale le 1er juin?
Non, M. Robillard, on va faire ça en assemblée régulière. Là. Les spéciales, on le fait quand on est vraiment obligé d'en faire une. Là. L'année dernière...
Je pense qu'on est obligé d'adopter le règlement avant le 1er juin.
Oui, mais le gouvernement comprend qu'il y a eu la COVID, là, même s'ils ont fait un arrêté ministériel, je crois, là, dans le cas, là, ou quelque chose comme ça, là, dans ce cas ici. Là. Mais non, le gouvernement, il comprend.
Oui, je sais, mais...
Il n'y aura pas de spécial.
Je ne peux rien faire les vérifications parce que je pense que le gouvernement, malgré le fait qu'ils ont émis des nouvelles directives,
oui, effectivement, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Par contre, notre greffière est en discussion avec les personnes qui s'occupent du dossier et ils comprennent très bien que ça ne se fera pas avant la fin du mois de juin.
OK. J'avais écrit là-dessus, tant mieux. Là, vous avez parlé de poule en entrée de jeu, ça veut dire que vous avez parlé du mois prochain, vous allez arriver avec une nouvelle réglementation.
Regarder ce qui existe comme réglementation. On va regarder ce que nous pourrions faire sur notre territoire et nous allons. On demandera aux membres du conseil et on vous demandera votre opinion à vous aussi une fois qu'on aura regardé et épluché le dossier. Et nous ne dépasserons sûrement pas 21 000 de population ou 22 000, gros maximum.
Il y a quelques semaines, on n'était pas encore au printemps. Je pense pas que la demande était si élevée que ça, mais on a encore vu des épisodes d'eau brune.
Pas à ma connaissance.
Ça veut dire que c'est normal d'avoir des épisodes une fois de temps en temps d'eau brune, puis d'avoir plein de sable dans le bain, puis.
Honnêtement, je n'en ai pas eu connaissance. Et normalement, ça arrive quand il y a, et vous êtes très au courant, là, quand il y a un incendie et que le système est sollicité au max, mais à part ça, non. Mais j'ai pas eu d'écho à cet effet-là.
OK. Je peux vous dire qu'on a eu des épisodes d'eau brune, je peux pas vous dire si ça a été lié avec un incendie, mais. Pour avoir vécu l'expérience, mais ces réseaux sociaux m'envoyaient aussi pas mal souvent, là. Puis c'est pas juste en temps de canicule ou en temps de garde de monde.
OK.
Fait que. Dernière question. Le fameux projet de règlement des séances. Vous êtes vraiment sérieuse, là, que vous allez. Vous voulez empêcher. Tout le monde, tout citoyen, de filmer, d'enregistrer les séances.
Monsieur Robillard, quant aux séances et aux. On avait dit qu'on reportait ça l'année prochaine. C'est ce que j'ai dit en assemblée publique. Alors, nous allons vérifier de quelle façon que ça va être rédigé. Il s'agissait d'un avis de motion. Le document va être transmis au procureur de la ville et on va regarder ce qu'ils vont nous conseiller s'il y a des modifications à apporter au règlement.
Ben, pas ça, quand, dans l'élaboration du règlement, là, vous n'avez pas soumis rien, vous n'avez pas consulté avant l'élaboration de ce règlement-là.
Oui, on l'aura déjà soumis, mais quant aux séances qui sont filmées, j'ai pas cru bon, là, ou en tout cas, on n'a pas cru bon se pencher sur le côté. Enregistrement des séances. Là. Alors, on va vérifier, voir ce qui serait le mieux d'indiquer dans le règlement. On va vérifier.
Okay. C'est pas trop clair, mais parce que là, dans le projet de règlement, vous dites que la ville peut enregistrer et la diffuser ultérieurement. Je pense que ça aurait été intéressant de. Qu'on allait les filmer et les transmettre, là, parce que je pense qu'on est rendu au 21e siècle. Et
M. Ensuite. Alors, c'était pas votre dernière question? Vous avez dit que c'était votre dernière question.
Oui, ben c'est ça, là. Et vous dites que les citoyens présents, juste bien confirmé, là, que les citoyens présents ne peuvent pas enregistrer ni filmer en aucun temps les assemblées publiques. C'est ça?
Ben là, pour l'instant, c'est ce qui est indiqué dans le règlement. Là, on va faire des vérifications à cet effet-là. OK?
Parfait, parce que je vous dis.
Oui, M. Robillard, on va la faire la vérification.
Et le ministère des Affaires municipales qui a déjà émis des municipalités pour leur reprocher ce genre de règlement-là.
Oui, je vous dis qu'on va faire la vérification.
Parfait.
C'est bon? Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée?
Madame la Présidente, j'aimerais porter à l'attention de M. Robillard que j'ai une motion au mois de février, si vous pouvez référer, et il n'y a aucun adopté à l'unanimité. Avec une motion, ça finit comme ça. Après ça, c'est si faisons un projet de règlement, vous êtes complètement dans le décor, M. Robillard. Ben, monsieur, vous allez voir les avis. Allez, ça vous prend un ordinateur, ça se garde au mois de février, il n'y a aucun adopté à l'unanimité.
OK. Alors, M. Legault...
Attendez, une question, Mme la mairesse. Parlant d'ordinateur, merci, M. Legault, de me faire penser à ma dernière question. La prochaine séance, on ne sait pas trop si ça va être à huis clos, là. Est-ce que la prochaine séance pourrait être dans une plateforme genre Zoom ou... puis on va dire en live, là, pour l'anglicisme, mais en direct, pour que les citoyens puissent poser leurs questions en direct. Parce que je ne sais pas si c'est le département d'informatique qui n'est pas capable de faire une plateforme comme ça, ou si c'est vraiment la volonté du conseil et de votre volonté de garder ce système-là et de faire le minimum de ce que le ministère des Affaires municipales demande de faire aux villes.
Mais là, on ne fait pas le minimum, on fait ce qu'ils exigent, M. Robillard.
On fait pas mal le minimum. Là, ils disent d'y aller là, au minimum, c'est des questions écrites ou de l'audio, mais ils suggèrent fortement aussi d'y aller avec d'autres plateformes visuelles, puis de le faire en direct, puis de répondre aux questions en direct.
Puis ils suggèrent aussi de faire un PV détaillé seulement et ne pas l'enregistrer. Voyons, M. Robillard. Bon, avez-vous d'autres questions?
Avec
tout,
merci, Mme Paulus.
C'est beau. Bonne journée. Alors, qui propose la levée?
Je propose.
Et qui l'appuie?
Qui l'appuie.
Alors, merci. Bonne fin de journée.